C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Le titre de l'article, ça s'appelle « Ça m'est arrivé à moi aussi ». On parle d'empoisonnement au GHB, la drogue du viol. L'Assemblée nationale, mercredi hier, a reconnu dans une motion que le problème est un fléau. Le problème est très présent dans les bars, selon plusieurs spécialistes. Les femmes intoxiquées à leur insu n'en peuvent plus, ça, on le devine, là. Et il y a des témoignages, entre autres, une jeune femme qui s'appelle Sandrine Pelletier, elle dit « Moi, j'ai senti mon corps ramollir, je me suis effondrée, endormie dans une cabine de toilette en janvier dernier. »
Puis une chance qu'elle avait des amis, cette fille-là.
C'est ses amis qui l'ont, qui lui ont raconté ce qui est arrivé. Imagine-toi, elle, là, c'est pas elle qui raconte ça. Elle a aucune idée de ce qu'elle raconte quand elle dit ça. Blackout total, la même chose pour une autre. Léa Tanguay a dit, moi aussi, je pense que j'ai été intoxiquée au GHB dans un bar de la rue Beaubien il y a un an. Elle dit, mes amis ont veillé à ma sécurité, m'ont ramené à la maison, mais elle dit, moi, pour vrai, j'ai l'impression de ne plus être en sécurité quand je fais des activités normales que j'ai le droit de faire. Aller prendre un verre entre amis, il y a rien de plus, la vie quand t'as 19, 20 ans. Moi, j'en reviens pas, je suis plus dans les bars comme j'ai déjà été à une époque. J'ai passé cet âge-là, mais, on dirait que je le crois pas. Il y a même quelqu'un, c'est la messagerie texte, qui parle de c'est même plus surveiller son verre contre la drogue du viol. C'est maintenant une petite piqûre. Valérie, tu disais que t'as eu connaissance de ça, mais tu sais que ça existe.
Moi, j'ai jamais vécu ça, puis je connais personne non plus qui l'a vécu. Cela dit, c'était beaucoup dans l'actualité. En 2020-2021, quand les festivals avaient repris un peu là, durant la pandémie, il y avait des gros problèmes parce que dans les salles de spectacle, dans les festivals, c'est comme une genre de petite mini-seringue avec une toute petite aiguille. Puis puisque t'es en proximité avec plein de monde, tu sens comme une petite piqûre sur toi. Mais finalement, c'est une injection de GHB.
Ah, il faut être désespéré. Hein?
Puis, l'Assemblée nationale s'en est mêlée parce que la chanteuse Ariane Brunet, elle a dit, moi, j'ai pas pu me faire tester maintenant à l'hôpital de Verdun pour valider que c'est ça que j'avais vécu. Et c'est là-dessus que la motion porte. C'est qu'il oblige maintenant les centres hospitaliers à le faire, ce test-là.
Ça dure 12 heures dans ton corps. Fait que c'est, il faut que ça soit très, très rapide.
Et ça fait effet en dedans de 20 minutes. On parle à 20 minutes, ça commence déjà à faire effet.
Ils disent que c'est deux tests que ça prend. Tu sais, c'est très complexe.
Ouais.
C'est, on est là, on se teste pour la COVID, puis on le fait en quelques minutes.
C'est un faible moment, effectivement.
C'est plus complexe.
C'est ça.
Ce qui est dommage.
On souhaite ça, mais pour vrai, c'est quelque chose. Moi, je connais pas ça, puis ça me sidère que des gens fassent ça à des femmes. Là, j'en reviens pas. Là, moi, pour vrai, c'est des vidanges finis. Là, j'ai aucun respect pour ça. Puis, je suis curieux de vous entendre, vous, mesdames, à qui c'est arrivé. Puis, je dis, mesdames, est-ce que ça arrive-tu à des gars?
Ben, y a-tu des gars? Déjà, sa message de texte, il y a Mike qui dit que ça lui est arrivé.
Ben, voyons donc, des gars qui se font mettre du GHB dans leur verre ou autre manière. On veut vous entendre. 790, c'est quoi? Le texte 96.9.
Et Mélanie Lefebvre a dit, moi, je sortais en 99-2000, puis il y avait déjà ça. C'est pas un nouveau fléau. Moi, je pense que
c'est
plus
pire, là.
Démocratisé, puis que ça se vend facilement encore plus.
C'était plus accessible, mettons,
à trouver à l'époque.
Ouais.
Est-ce que vous le vivez? Gênez-vous pas pour réagir. On veut vraiment vous entendre ce matin. Vous l'avez vécu, ça. 790, c'est quoi? Le texto 96.9.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
9 cas sur 10, c'est une jeune femme qui est impliquée. Il y a des hommes, effectivement. Jonathan, il écrit ça. Il dit, ça m'est arrivé, moi, 6 pieds 1, une coupe de livres. 300 livres, un costaud qui s'est fait... Mais ils disent, pour vrai, c'est pour se faire voler, les gars. Les gars se font voler, puis les filles se font violer. C'est vraiment débile. Puis il y a quelqu'un qui écrit aussi, c'est juste pour scraper la soirée de quelqu'un. C'est pas nécessairement...
C'est par méchanceté.
Par méchanceté, c'est quand même fou. Là.
Oui,
on va aller au téléphone, on parle de drogue, du viol ce matin à l'Assemblée nationale, qui reconnaît que c'est un fléau et qui exige que les tests... Il y en a eu 1441 tests faits l'année dernière. C'est des tests en tabarouette là pour savoir si c'est ça que t'as eu, la drogue du viol. Gabi, salut!
Salut!
Gabi, ça t'est arrivé, toi, il y a longtemps?
Ouais, j'avais 17 ans quand ça m'est arrivé. J'étais dans un bar. Il y a un garçon qui m'a comme approché, il m'a offert un verre, mais du coup, au début de la soirée, j'ai dit non. Puis au fil de la soirée, ben il commence à être un peu pompette, comme on dit. Puis j'ai fini par accepter. Puis ça a pas pris de temps que me rappelle vraiment absolument rien. C'est mes amis qui me l'ont compté. Mais je suis partie avec le gars. Il a gazé, puis là, j'ai comme repris comme conscience un peu.
Ouais.
Puis, dans le fond, je suis sortie de l'auto, parce que là, j'étais là, OK, mais t'es qui? Je suis sortie de l'auto, je suis partie, puis dans le fond, je me suis écroulée en avant d'un restaurant.
Puis là, le monde t'a aidé.
Quand je me suis réveillée, dans le fond, je me suis réveillée dans l'ambulance.
Oh my God! T'as été chanceuse. Quelques brefs moments de lucidité t'ont sauvé peut-être de quelque chose de plus horrible. Gabi, merci de ton appel ce matin. C'est épouvantable. C'est ce blackout-là, man, qui me sidère bien raide. Ouais.
Chloé Lévesque-Milo a dit, moi, j'ai une amie, on est dans un bar, on est une gang ensemble, puis à un moment donné, j'en trouve plus une. Je décide d'aller aux toilettes, je la trouve par terre, dans une cabine verrouillée, à peine consciente. Il y avait du vomi partout. Il a fallu appeler l'ambulance. Et j'ai bien fait parce que elle avait fait une dépression respiratoire ce soir-là alors, suite à l'ingestion.
Ben, écoute bien, la fille d'un ami s'est réveillée un moment donné. Le dernier souvenir qu'elle a, c'est qu'elle parle au doorman, puis le souvenir d'après, elle se réveille à l'urgence, à l'hôpital. Puis elle avait mal au chest parce qu'il l'avait réanimé.
Non, on rigole pas avec ça.
Moi, c'est arrivé à ma blonde. Ma blonde, quand elle était plus jeune, elle sortait tout le temps dans le même bar. Puis, à un moment donné, ben le Darman l'a vu sortir, puis elle avait l'air complètement saoul.
Puis, c'est que tu l'habitues, puis il voit qu'elle n'a pas de main.
Puis, elle s'en allait avec un gars, puis elle a fait non. Toi, tu t'en viens ici, tu te mets sur la banquette, puis toi, mon gars, tu te décolles. Puis, comme de,
le Darman a fait qu'au gars, tu sacs ton camp, puis il a protégé ta blonde en la mettant de côté. Puis, c'était bien ça. Ta blonde ne se souvient pas de ça.
Non, elle n'avait aucun souvenir. Puis, c'est fou, là. Si lui avait pas été là, on n'a aucune idée qu'est-ce que.
Mais c'est ça. On le mentionne beaucoup dans l'article de la presse ce matin dont tu fais référence à Martin. Là, tu sais, la part des gens qui travaillent dans les bars, à quel point ils sont essentiels, puis importants.
C'est un texte d'Émilie Bilodeau. Allez lire ça pour vrai. Si vous avez, puis je dis des jeunes filles puis des jeunes gars, Colin, parce que c'est pas une affaire à faire vraiment là dans la vie là. On devine que c'est plus les gars, les tannants que d'autres choses. Là.
Et même si t'as un ami qui fait ça.
Hey man, pour vrai, là, ça se cadre un ami aussi. Là.
Ce qui est bien fâchant, c'est qu'on en parle depuis de nombreuses années, puis on dirait qu'année après année, on continue d'en parler, puis il y en a juste plus.
Il y a une motion quand même à la salle.
Oui, c'est ça, tout à fait, t'as raison.
Puis on oblige des tests, puis on va faciliter au moins la détection de ça un petit peu plus.
T'es comique? De retour après ceci.
C'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Écoutez ça, on va rigoler. Le gouvernement Legault va permettre que les données médicales des Québécois soient hébergées sur des serveurs à l'étranger, comme par exemple Amazon. Le hic, c'est que ce sont des serveurs qui ont connu plusieurs fuites de données. Ce que je formule comme demande ce matin, est-ce que je pourrais vendre mes données moi-même?
Excellent
point. Parce que ça va fuiter, c'est inévitable. Est-ce que je pourrais au moins, moi, en profiter?
Monétiser?
Oui, mettre mon numéro d'assurance sociale sur Marketplace. Si je peux aller me chercher un 200 ou 300$, ce serait cool. Ce serait à moi, cet argent. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais me faire voler mes données parce qu'elles sont partout. Quand je commande du poulet chez Benny, ils prennent mes infos de carte de crédit. Pas certaine que le département informatique chez Benny, ce soit les plus quick, hein? Mon corps cuisse arrive frette. J'imagine le département de l'informatique. Et je le sais que je suis à risque. Mon compte client chez Vanout a le même mot de passe que mon clic sécure au gouvernement. Okay. Et je vous cacherai pas que ça ressemble beaucoup à mon prénom avec un A commercial.
C'est plus le numéro de Michel Goulet?
Non, le 16, je l'ai enlevé. En fait, j'ai un mot de passe pour tout, puis il est écrit sur un morceau de tape sur mon ordi. C'est écrit Tami avec un A commercial.
Ouais.
Non, mais on est dans un monde capitaliste. Ce qui m'appartient, je peux en faire ce que je veux.
Ben oui.
Hein? Ben, je devrais pouvoir vendre mon identité avant qu'un loser reparte avec une clé USB à caisse pop avec mes informations et qu'il échange ça contre des cartes cadeaux Home Depot. Hein? Ouais. J'ai un agent, il va me négocier ça. Puis mon identité, on va se le dire, va valoir cher.
C'est sûr.
Une femme de 41 ans.
Amen. Dans la fleur de l'âge.
Oui. 41?
41. Oui. Et en plus, je me dévoile peu. Et parfois, cela est vrai, cela est pas vrai. Il y a une confusion. Val aussi, c'est une belle identité, mais aucun mystère.
Mais non, on connaît tout.
On peut même deviner ton mot de passe, toi, c'est Air Canada Sox.
Oui, c'est effectivement ça.
Val est s'auto-géolocalise sur Instagram. Elle est même pas espionnée par soi des pubs ciblées. L'identité de Billy est mystérieuse. Billy a été mystérieux. Mais tiens, qui veut ça? À part les compagnies pharmaceutiques qui ont clairement un marché à développer chez les Billy en entier. Puis il y a Martin.
Hein?
Ouais, ben Martin, je suis pas certaine qu'il y ait une identité numérique,
non,
Martin.
Vraiment pas.
Il pose pas, il poste, Martin.
Ouais.
C'est vrai. Quand tu transfères des photos, c'est des 8,5 par 11 là, qu'il a scanné. Les statues de Martin sont une gracieuseté de word art. Et ma Martin, il rit encore des blagues du trombone animé sur Word.
Il y a tellement des bons conseils.
C'est tout moi, ça. Mais ça, ceci dit, allez pas lire le bas des pyramides en Égypte, par exemple. Ça pourrait donner un indice sur mon identité.
Ah, ah oui?
C'est en hiéroglyphe.
C'est ton mot de passe, ce gros œil. Faucon.
Bref, je pense que j'ai été clair ce matin. Je vais vendre mon identité moi-même. Faites vos offres. Puis, il faut savoir que mon accès au crédit vient avec un casier judiciaire.
Ben oui. Ah,
mais je suis innocente. Il m'a coupé pas de flasher, le tabarnak.
Ouais. Le podcast Debout les comiques.
Once upon a time, there was a place called the wilderness. It was beautiful, but it was also violent and misunderstood.
Ça, c'est la bande-annonce de la série Yellow Jackets, saison 2. Saison 1 qui avait été un très, très grand succès sur Showtime aux États-Unis et sur Crave ici au Canada. C'est une série qui racontait l'histoire d'une équipe de soccer du New Jersey en 96 qui se rend à Seattle pour faire un tournoi. Et ils vont survoler le Canada à ce moment-là. Et l'avion va s'écraser en pleine nature, dans la forêt, au Canada. Et la série va raconter leur histoire de survie. C'est 10 jeunes femmes qui vont devoir survivre dans la nature. Ce n'est pas un fait vécu, c'est basé sur un livre qui était déjà sorti en 54 qui s'appelle Sa Majesté des Mouches de William Golding. Et donc, les créateurs voulaient en faire une version moderne, si tu veux, une version avec des femmes, parce que dans le livre original, ce sont des hommes. Donc, j'ai rencontré hier Sophie Nélis, actrice québécoise, qui joue un rôle très important dans la série Yellow Jackets. Et on a pu parler de la deuxième saison qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, première question que j'ai posée à Sophie, je lui ai dit, OK, commençons par le commencement. Quand je te dis Yellow Jackets, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et parmi les trois mots qu'elle m'a nommés, il y avait genre survie, mais le premier qu'elle m'a nommé, c'était chaos. J'ai dit, pourquoi chaos? Et voici ce qu'elle avait à me dire.
Chaos, on dirait que c'est aussi, entre autres, parce que je l'ai tourné, puis c'était un peu chaotique à tourner aussi. Je pense que c'est le fait qu'on soit autant dans chacune des scènes. C'est la première fois que je faisais un travail autant d'ensemble, ce qui a beaucoup d'avantages, mais aussi, c'est ça, beaucoup d'inconvénients quand ça vient à bloquer la scène, c'est beaucoup, tout le monde a son opinion, tout le monde a son avis.
Bloquer la scène, là, c'est préparer tout le monde, les mettre en place, puis expliquer c'est quoi le déplacement qu'ils vont faire dans la scène. Sauf que, à chaque fois, 10 personnes. Puis elle disait, on est 10 jeunes femmes, on a toutes des personnalités qui sont très fortes. Puis elle dit, il y en a, moi, des filles dans cette gang-là, là, que quand je leur parle, j'ai l'impression qu'ils me parlent en chinois. Genre, on est tellement loin une de l'autre qu'il a fallu qu'on se retrouve à quelque part. Puis elle dit, tourner Yellow Jacket, c'est capoté parce qu'on est large chez lousse dans le bois, puis on attend que nos scènes commencent. C'est toutes des personnalités.
Fait que t'es trempé dans l'ambiance tout le temps, là, c'est
elle
ce qu'on
disait,
comprend. Là.
T'es toujours dans l'ambiance, puis quand on arrive pour tourner une scène, des fois, on n'est pas nécessairement dedans. Puis là, elle dit, on se met en petit rond, là, puis c'est ce qu'ils ont fait pour la saison 2, et on crie comme si on était des loups. Puis là, boum, l'action commence. Fait qu'elle dit, ça donne lieu à des affaires un peu capotées quand même. Elle me disait aussi que dans la saison 2, elle va tourner avec un ventre de femme enceinte. Fait qu'elle a un très, très gros ventre.
Oui, on ne dévoile rien en disant qu'elle est dans la saison 1.
Ça veut des trucs, là, je lui ai donné. Moi, je me promène avec ça à l'année.
Mais saison 1, elle termine, puis elle est enceinte. Donc, elle disait, tu sais, ça a été vraiment particulier parce que j'ai dû changer ma démarche pour pouvoir me promener avec cette grosse bédaine-là. Elle dit, dans la série aussi, elle va accoucher. Donc, elle dit, j'ai regardé plein de vidéos d'accouchement pour me préparer. Mais elle dit, dans le mien, mettons que ce sera pas simple ce qui va se passer. Je lui ai parlé de m'expliquer donc comment ça se passait les tournages, on l'écoute.
Ce qui est vraiment le fun, je pense que ce qui est super intéressant, c'est ben, dès le début, c'est qu'ils ont choisi d'aller vers un chemin qui est un peu hors norme, juste dans ma manière de comme essayer de cope avec la mort de Jackie. Ma manière d'essayer de la garder en vie puis de la garder proche de moi, je trouve que c'est pas juste elle qui pleure. On voit déjà dès le début de la saison qu'il y a comme un peu une dissociation, une déconnexion de la réalité. Déjà que toutes les filles là, commencent à faire des choses qui sont pas trop normales, mais qui comme ils essaient de le légitimer.
Et c'est ce qu'elle va m'expliquer. Que cette saison-ci, c'est vraiment encore le thriller, le drame, l'horreur de la saison 1, mais très, très, très rapidement, on embarque dans une place vraiment sombre.
OK.
Puis elle dit, mon personnage, il est le fun. Puis tout le monde, d'ailleurs, dit là, que c'est l'année du personnage de Sophie Nélis parce que c'est elle qui va avoir la trame narrative la plus intéressante, mais aussi la plus difficile à jouer, la plus dark. Quand j'ai parlé avec Sophie, on a beaucoup parlé aussi du fait que ça vient avec beaucoup de pression, faire une deuxième saison d'une série à succès. Ça vient avec beaucoup de pression d'avoir une carrière aux États-Unis parce que tout le monde dit « Oh wow, c'est extraordinaire, elle a réussi à l'international. » Puis elle, elle me disait « Moi, je ne peux pas gérer la déception dans ma vie. » Fait que j'aime mieux qu'on n'en parle pas de ça. J'aime mieux que je suis trop stressée par les commentaires qui pourraient survenir après.
Okay.
Puis elle a dit, en plus, celle qui joue son personnage, mais qui est de retour à la vraie vie, parce que si vous avez regardé la saison 1, dans le futur, c'est Melanie Lynskey qui la joue. Elle dit, elle arrête plus de parler de moi avec des termes trop élogieux.
Okay.
Je peux pas vivre ça. On écoute Sophie Nélis.
Je fais des entrevues avec Melanie Lynskey qui est comme, me met genre tellement sur un piédestal, puis elle parle de moi, elle était comme, it's Sophie's Emmy season, puis je suis comme, non mais dis pas ça. Je suis comme, je regarde, je suis même, je veux mourir, parce que là, je suis comme, tu plantes cette idée-là dans la tête des gens, genre. Mais après ça, je suis comme, moi, comme, je veux pas même croire que c'est même possible parce que je suis comme, encore là, la déception, ça arrive pas, puis juste de tout le monde est comme, les gens, juste le fait que les gens, ils pensent puis que ça arrive pas, on dirait que ça me... Fait que j'aime mieux, elle était comme toute rebasse sur ses épaules, là. Je suis comme, là, les gens vont avoir des attentes, là. Je veux pas ça, là.
On la comprend, donc, aménage les attentes.
Aménage les attentes, puis tu sais, je disais, il faut quand même que tu prennes les bons commentaires. Ça a été un grand
aussi
succès, Yellow Jackets 1. Mm-hmm. Fait qu'on attend avec impatience la saison 2 qui s'en vient sur Crave vendredi la semaine prochaine. Donc, vendredi le 24 mars.
Okay.
Et elle m'a beaucoup parlé aussi, puis je termine avec ça, de l'idée que la saison 2 va jouer beaucoup sur le thème du cannibalisme.
Oh.
Puis va jouer sur le thème de quand on est en survie, est-ce qu'on doit décider si quelqu'un meurt ou pas?
Ouais,
tous
c'est
des
ça
thèmes qu'il aurait dû aborder à Sortez-moi d'ici.
Exactement. C'est juste ça qui manquait.
C'est ça qui manquait.
Voilà, Yellow Jacket. L'horreur dans Yellow Jacket.
Ouais.
Oui,
le
ouais, mais elle disait saison 2, ouais, beaucoup.
Le podcast Debout les comiques.
Si vous n'avez pas le temps de prendre en note tout ce qui sera jasé dans les prochaines minutes, ça va se retrouver sur le c'est quoi.com. Je dis ça parce qu'on va jaser. On doit tous un jour ou l'autre changer nos électroménagers. Mm-hmm. On peut se sentir un peu perdu devant toutes les marques,
ben
les prix,
oui,
les modèles, les fonctions. Ça tombe bien parce qu'on est de retour avec notre chroniqueuse Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, pour parler frigo, cuisinière, laveuse et lave-vaisselle. Allô, Mathilde?
Salut.
Allô.
Donc, vous avez testé plus de 300 électros à Protégez-vous. Quels sont les principaux constats généraux dans vos tests?
Ouais. Ben d'abord, c'est un immense marché qui est celui des électros.
Ben
vous,
oui,
vous en doutez. Chaque année, on répertorie là, plus d'une centaine de modèles par catégorie. Et un des constats qu'on fait chaque année, et on le fait encore cette année, c'est que les prix varient énormément. Mmh. Et comme c'est souvent le cas, ben les appareils qui se vendent plus cher, ce sont pas nécessairement les meilleurs. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de quand même consulter les, les résultats. Je vous donne un exemple. On a une laveuse à chargement frontal qui se vend 3 000 $, qui a obtenu exactement la même note qu'une autre qui se vend à 1 000 $.
Hey.
Donc
trois fois
plus cher, tout à fait. Et cette année, la particularité, ben c'est l'inflation qui frappe évidemment. Donc on voit une hausse généralisée des prix. Il y a plusieurs modèles qui se vendent de 100 à 300 $ de plus cette année par rapport à l'an passé.
Mais là, on commence avec les laveuses, mettons. Lesquelles sont les meilleures? Les frontales ou le chargement par le haut?
Ouais, ouais, y a deux écoles de pensée, mais
ouais,
protégez-vous à trancher.
Ah, yes.
En général, donc, ce qui ressort, c'est que les laveuses frontales, c'est elles qui performent le mieux.
Ah ouais.
Elles consomment moins d'eau, moins d'énergie.
Ouais, ça,
elles lavent mieux, elles sont plus silencieuses, mais ça reste que malgré tout, là, on retrouve des bons modèles dans, dans toutes les catégories.
Ouais.
Je sais, Valérie, toi, t'es peut-être plus à chargement par le haut.
Non, mais c'est qu'il y a souvent des enjeux de moisissure.
Ouais, moi, je suis à la même place que toi. Moi, la mienne, c'est la dernière fois que j'ai une frontale.
Ouais, moi aussi, j'ai la misère avec ça.
J'ai bout de mes bras, faut que je relave mon linge constamment. C'est épouvantable.
Moi, ça n'en fait pas de moisissure.
Ben, ça dépend, évidemment, le modèle qu'on a, mais
c'est sûr qu'on a des astis de cauchemar à maison aussi, on va dire.
Mais pourquoi vous lavez de la moisissure? Arrêtez de mettre de la moisissure dans la laveuse.
Je pense que c'est un problème de configuration.
Il faut laisser la porte ouverte. En tout cas, là, moi, je sais qu'on ne ferme jamais la porte.
Oui, effectivement, il faut l'essuyer, ouais, tout ça.
Oh.
Mais bon, là, on parle de performance, mais il y a aussi on veut un modèle qui va durer dans le temps, qui va pas briser. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a regardé. Est-ce que ça se répare bien? Et du côté des laveuses, ce qu'on constate, c'est que les modèles les plus récents, malheureusement, c'est assez complexe. D'abord, les pièces coûtent cher. Les problèmes ne se règlent pas toujours. Donc, souvent, c'est vraiment un pensez-y bien à savoir si on répare ou non. Quand même, il y a certaines marques qui s'en sortent mieux que d'autres. Je vous nomme la marque LG, là, qui ressort comme la marque la plus fiable côté des laveuses.
Ah ouais.
Dans quelques minutes, je vais vouloir qu'on parle des lave-vaisselles aussi, parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise quotidiennement? Il y a la majorité des maisonnées.
Ça dépend, la mienne, le mien est brisé. Fait que,
Tu t'en sers pas quotidiennement.
Mais alors, tu pourras nous partager tes impressions pour ton futur achat.
Et celui que tu vas acheter, exactement.
Exact.
On est en compagnie de Mathilde Roy de Protégez-vous. On continue de jaser électroménager dans un instant.
Le podcast Debout les comiques.
Je vous rappelle qu'on est en compagnie de Mathilde Roy, journaliste Protégez-vous, à Protégez-vous et qui capote sur Weezer à chanter toute la toune. Et on jase électroménager, entre autres frigo, cuisinière, lave-vaisselle et lave.
On est rendu au lave-vaisselle.
Exactement. C'est ça qu'on voulait savoir. Donc, les résultats du côté des lave-vaisselles, on se fie à quoi?
La marque la plus fiable du palmarès, c'est la marque Bosch. Donc, dans les 9 modèles qui ressortent comme les meilleurs, il y en a 6 qui sont de cette marque-là.
Et tabarouette.
En termes de prix, à quoi il faut s'attendre de payer? Ben, les bons appareils à moins de 1 000 $, on a été habitués à ça longtemps, mais c'est de plus en plus rare, malheureusement. Quand même, il y a des bons rapports qualité-prix qui ressortent du classement. Par exemple, un modèle Whirlpool à 650 $. Donc, c'est possible. Ouais. On parlait de réparation tantôt, de réparabilité.
C'est horrible.
C'est plus simple que pour les laveuses, pour les lave-vaisselle. Les pièces sont moins chères, les techniciens connaissent les modèles davantage, donc souvent ça vaut plus la peine, parce que les laveuses, on parle de pièces parfois qui vont jusqu'à 1 000 $. Les lave-vaisselle, c'est moins ça. Là, quand
c'est une mécanique plus simple.
Ouais. Exact.
Du côté des réfrigérateurs, des cuisinières, qu'est-ce qui en ressort, Mathilde?
Oui, pour les réfrigérateurs, on a testé 81 modèles et ce sont les marques Samsung et LG qui dominent le palmarès.
Faites-vous un potage sur chacun, mettons.
Steer. Prochaine fois, là. Par contre, on remarque pour les réfrigérateurs, le taux de fiabilité est vraiment le moins bon. Les consommateurs rapportent beaucoup de bris, là, par exemple, des tiroirs brisés, craqués, des frigos qui sont très bruyants, des problèmes avec les systèmes de dégivrage. Donc, déception là, du côté des réfrigérateurs. Pour les cuisinières maintenant, je voulais vous parler des cuisinières au gaz, parce qu'il y a toute une aura en ce moment autour de ces appareils-là.
La pollution et autres.
Oui, mais les gens on les voit beaucoup dans les magazines, les cuisines, les gens rénovent leur cuisine, ils vont vers ça. Mais t'as raison, il y a tout plein d'enjeux autour.
Le côté de l'as.
Tout à fait. Mais si on regarde du côté des tests, est-ce que c'est vrai que c'est plus performant une cuisinière au gaz? Ce qui ressort des tests, c'est que les cuisinières électriques, particulièrement celles à induction, c'est elles qui réussissent généralement mieux les tests. C'est plus rapide pour chauffer les aliments. Les cuisinières au gaz, c'est particulièrement mauvais pour chauffer à feu doux. Ça se nettoie difficilement. C'est assez cher. On parle de généralement là autour de 2 000 $ là, en partant pour une cuisinière au gaz.
C'est de base.
Tout à fait. Et c'est sans parler de tout le débat là, dont tu parlais, le risque pour la pollution, mais le risque pour la santé également. Mm-hmm. Donc, des modèles peut-être plus à éviter.
OK. On veut parler de délai de livraison. Est-ce qu'on doit s'attendre encore à des délais?
Les chaînes d'approvisionnement sont encore lestes?
C'est encore pas tout à fait rendu à la normale. Donc, il faut quand même parfois compter plusieurs mois pour se faire livrer ces électros. Donc, si vous en avez besoin dans les prochains mois, c'est peut-être mieux de commander là, tout de suite. Pour être sûr de les avoir là, à la date prévue. Là.
OK.
Et changer ses électros, ça peut des fois faire un solide trou dans le budget. Là. On le sait juste avec les prix que tu as donnés depuis tantôt.
Ben oui.
Est-ce que tu as des trucs pour peut-être réduire un peu la facture?
Ben oui, parce qu'en moyenne, il faut payer entre 1 300 et 3 200 $ pour un gros électro. Donc oui, ça fait un gros trou dans le budget, surtout par les temps qui courent.
Ben oui.
Donc quelques trucs, opter pour un bon rapport qualité-prix dans le classement, c'est déjà une bonne façon d'économiser. Sinon, d'aller vers les appareils plus économiques. On parlait de laveuses à chargement par le haut. Ce sont souvent des modèles qui sont plus économiques. Mmh. Les cuisinières en surface en vitro-céramique, c'est plus économique. Et le moment aussi auquel vous achetez vos électros, période des déménagements, là, il y a souvent des rabais, ça peut être un bon moment.
Ou même le Boxing Day, entre autres. Merci, ma chère Mathilde. Merci. On retrouvera sa chronique sur le c'est quoi.com, comme chacune de ses chroniques. Donc, vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note. Ça se retrouve assez facilement.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Debout les comiques.
Cave. On commence ça avec Yannick. Yannick, c'est l'histoire de deux newfies qui visitent Paris et ils se rendent compte que la mode là à Paris, c'est vraiment aux chaussures en crocodile.
Oh, intéressant.
Ah, alors, ils trouvent pas ça nécessairement beau, mais ils disent, mon Dieu, il y a peut-être une opportunité d'affaires. Alors, il y en a un qui dit à l'autre, hey, si on s'associait tous les deux pour ouvrir justement un magasin de chaussures en crocodile chez nous, on pourrait devenir riches. Et là, l'autre répond, oui, mais on n'a pas assez de crocodiles, tu sais, ça va être difficile. L'autre répond, t'inquiète pas, on va aller en Afrique pour en chercher. Puis après ça, on ouvre notre boutique.
Solution.
Alors, c'est ce qu'ils font. Ils partent toutes les deux en Afrique à la recherche de crocodiles. En arrivant devant une rivière, ils voient justement un énorme crocodile. Ils vont à sa poursuite et au bout de plusieurs heures de bagarre, ils réussissent à le capturer. En l'observant bien, le deuxième newfie dit, « Bon, si on a fait tout ça pour rien. » Le premier répond, « Mais pourquoi? » Mais oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de chaussures.
Toujours checker le crocodile avant.
C'est Éric Lachapelle qui nous envoie cette joke. C'est un couple, comprends-tu? Ils sont ensemble pour le meilleur et pour la joke. Puis une femme a dit à son mari, a dit, chérie, cette nuit, j'ai fait un rêve incroyable.
Oh.
On était en train de faire l'amour et à côté de nous, il y avait un grand homme musclé qui agitait un éventail. J'ai eu un orgasme pas possible. Là, le couple, il se dit, ben, on le fait-tu ce rêve-là? Il trouve un grand gars musclé, paye 150$. Le gars, il accepte de ventiler pendant qu'ils vont faire l'amour. Là, ils sont dans la chambre à coucher. Le couple, il commence.
Un drôle de bruit.
S'il faisait ça en mode folklore.
C'est bien.
Avec des cuillères.
Le grand gars musclé, lui, il agite son éventail, puis il est à côté du lit, puis il agite ça, puis à un moment donné, il n'y a pas de résultat. La femme a fait, ben, regarde, je pense qu'il faudrait qu'on change. OK? Toi, t'éventes, puis le grand gars musclé, il va me faire l'amour, tu sais. Fait que le mari, il fait, OK, on essaye. Fait que là, il s'en va à côté du lit, commence à inventer, puis le grand gars musclé, il fait l'amour à sa femme, puis elle, à part. Puis là, elle a un orgasme, puis c'est fort, puis un autre orgasme, puis ah ouais, donc. Puis là, le mari, il tape sur l'épaule du grand gars musclé, puis il fait, tu vois, c'est de même qu'on invente.
Oh. On fait rentrer Christine.
C'est comme une belle naïveté. Oui. C'est touchant.
Christine Gélina qui raconte une joke de blonde. C'est l'histoire de deux blondes à un arrêt d'autobus. Il y en a une qui dit à l'autre, elle dit, moi, j'attends le bus numéro 3, toi. Elle dit, moi, c'est le numéro 5. Au moment qu'elle dit ça, l'autobus 53 arrive. Les deux blondes partent. Yeah! On va pouvoir prendre la route ensemble.
Il parle de même.
Il était vraiment exalté.
Mais tu vois, moi aussi, c'est une joke de blonde. Et c'est Pierre Lapointe qui nous envoie ça. Il dit, c'est l'histoire donc de trois filles qui marchent sur le trottoir et parmi les trois, il y a une blonde.
Non.
Donc, elle marche, les trois marchent et à un moment donné, la blonde part le fil et prend un petit peu de retard en arrière. Tout à coup, elle se penche, elle ramasse avec ses mains un gros, gros caca de chien par terre.
Pourquoi?
Puis là, elle revient en courant puis elle dit à ses amis, « Ah, les filles, regardez dans quoi j'ai failli mettre mes pieds!
On a le temps,
de la part de Kim, quelle mamie fait peur aux voleurs?
Je sais pas.
Mamie Troyette!
C'est une excellente
réponse. On va appeler ma mère la même.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.